les titres du journal.
Le Montreux Jazz Festival démarre dans 3 jours. Pour qu'il se déroule au mieux, un plan de protection sanitaire a été mis sur pied. Le certificat Covid est nécessaire pour qui veut assister à un concert payant. La station des Creusets, le théâtre d'une scène de crime sordide avec un meurtrier qui sévit en Suisse et en France. C'est le pitch d'une coproduction franco-suisse hors saison qui sera diffusée en mars prochain sur la RTS. Découvrez l'ambiance du plateau dans ce journal. 10 jours après la fin de la session d'été du Parlement fédéral, 2 référendums ont été lancés ce matin à Berne. On évoque le sujet tout à l'heure en compagnie de Serge Jubin, notre correspondant au Palais fédéral. Et puis du sport, bien sûr. Dans cette édition football, l'équipe de Suisse l'a fait. Au bout du suspense, elle a battu hier soir la France au tir au but. Et sur la scène régionale, David Orlando ne sera plus à la barre du FC Saint-Maurice la saison prochaine.
Et au programme de cette météo averse, orage et surtout température fraîche pour la saison. Météo complète et peu réjouissante à la fin de cette édition de midi. On retrouve Yves Terrani pour le journal de midi. Bonjour Yves.
Bonjour. La neige fond au Creusets et révèle le cadavre d'une femme assassinée. Il s'agit là du pitch d'une coproduction entre la RTS, France TV, Aka Film et Gaumont TV qui se tient dans une station de ski fictive, Les Cimes. Fictive, certes, mais qui se trouve à quelque part dans la région des Dents du Midi où les caméras s'activent jusqu'au 7 juillet pour finaliser le tournage et raconter l'histoire d'une série d'assassinats survenus entre la Suisse et la France. Radio Chablais s'est glissé sur le plateau et lève un peu le rideau sur l'envers du décor.
Alors la prochaine, on la tourne.
On fait les raccords, si besoin, s'il vous plaît.
Donc Serge, il faut envoyer la voiture police.
Le parking au départ des télésièges au Creusets grouille d'un public inhabituel. Pas de randonneurs ou de vététistes, mais y figurent des voitures de police ainsi qu'une SAB aux plaques françaises. Midi passé de quelques minutes et le soleil joue à cache-cache derrière de fins nuages. Ce décor, c'est le plateau de tournage de la production franco-suisse hors saison, une série qui sera diffusée sur la RTS.
Allez, silence s'il vous plaît, moteur.
322 sur un deuxième.
Action.
Une bonne trentaine de personnes circulent sur ce plateau. Les acteurs, les figurants et pléthore de rôles qui exigent une pareille production. Chacun a des fonctions bien spécifiques.
Moi, je suis du coup premier assistant son ou perchman, qui est le même rôle. J'assiste donc l'ingénieur du son sur le plateau. Et du coup, j'ai le rôle du placement de micro. Petite expérience, si je parle ici et si je parle là, ça change un peu le son. C'est le même principe pour nous avec les micros qu'on utilise. Sur le tournage, on travaille donc à l'image, au plan, en fonction du cadre et de la lumière. C'est les principales difficultés, on va dire, et enjeux à la perche. En gros, l'intérêt du placement de micro, ça va être de donner un peu une valeur comme on aurait à l'image et d'être un peu raccord avec cette valeur de plan. Donc, par exemple, un plan serré, on va voir un comédien en gros plan, assez proche. On va avoir envie aussi de l'entendre de manière assez proche. Et donc, on va avoir envie de se rapprocher un petit peu pour sentir cette présence, avoir un plus de détails dans la voix, de grains et tout.
Moi, je suis régisseuse sur ce plateau. Et tous les jours, hein, pas qu'aujourd'hui.
Et qu'est-ce que ça signifie, en fait, grosso modo ?
Alors, je colle à l'assistant Réa, donc Serge, qui m'indique les positions de véhicules, par exemple. Et je coordonne avec mes coéquipiers régisseurs les éventuels blocages pour qu'il n'y ait pas des personnes qui surgissent tout à coup sur le plateau et qui gâchent le plan.
Et il ne s'agit ici qu'une toute petite partie. Les scripts s'assurent des raccords, certains portent la caméra pour les travelling, comprenez les enregistrements en mouvement, un autre vérifie la lumière et tout ce beau monde est érigé par l'assistant réalisateur et évidemment le réalisateur qui n'est autre que Pierre Monard, récompensé cette année pour son film Les Enfants du Platschpitz.
Ce que j'aime particulièrement avec ce projet, premièrement c'est une coproduction entre la France et la Suisse, donc ça c'est une première pour moi. Ça nous permet de travailler avec des comédiens suisses, mais aussi des comédiens français. Typiquement, la scène qu'on a tournée aujourd'hui, voilà, c'est un bon exemple, parce qu'on a Philippe Grey, qui est un comédien suisse, et Sofiane Zermani, qui est un comédien français. Donc ça, c'est un plaisir d'avoir ces comédiens français et suisses dans toutes ces scènes. Et puis, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'on tourne à la montagne. Alors parfois, c'est très agréable, parce qu'on a des paysages qui sont magnifiques, on a des belles surprises aussi avec des atmosphères et des lumières assez incroyables. Et puis parfois, comme aujourd'hui, c'est un peu plus dur, parce que la météo peut être capricieuse, on peut avoir des passages de nuages, on peut tout à coup avoir une averse qui se présente sans être invité. Et on doit toujours être flexible et être prêt à composer avec les aléas de cette météo.
Diffusion prévue par la RTS, mars 2022.
Coupé, c'est coupé, c'est coupé.
coupé, merci.
Voilà, c'est coupé. Un reportage réalisé par Valérie Blum. Retrouvez les images de ce tournage sur notre site internet ou sur notre page Facebook.
Le compte à rebours a commencé.
Le Montreux Jazz Festival démarre en effet dans 3 jours. Pour qu'il passe au mieux, un plan de protection sanitaire a été mis sur pied. Il a été présenté hier à la presse. 1470 visiteurs maximum sont autorisés sur le site en même temps, soit 10 fois moins qu'en temps normal. Les personnes qui assistent à un concert payant auront besoin de leur billet, mais aussi d'une pièce d'identité et du code QR de leur certificat Covid. Un pass non requis pour les animations gratuites. Explication avec le directeur du MJF, Mathieu Jaton, interviewé par Margot Reguin, à côté de la scène du lac en construction.
Ça, c'était vraiment une volonté pour offrir aussi une accessibilité plus facilitée sur les espaces gratuits, notamment parce que dans tous les espaces gratuits, il y a des zones de restauration. C'était aussi pour simplifier la procédure pour le festivalier qui comprenne bien que s'il va au Montreux Palace dans un restaurant, bah, que c'est le même système dans un autre restaurant du Montreux Jazz Festival. Et là, on a pu travailler sur ce setup avec les autorités cantonales qui ont accepté ça, et ça va faciliter vraiment le travail aussi pour les festivaliers.
Il y a eu des remplacements in extremis la semaine dernière avec des artistes anglais. Est-ce qu'il y a encore des risques pour que ça se passe à nouveau?
Alors c'était évidemment un des risques et une des complexités qu'on avait à l'annonce de la programmation. Je vous rappelle que quand on a annoncé la programmation, l'Angleterre était le pays le plus ouvert, où il n'y avait aucun problème. On a quand même dit bon, on prend des artistes anglais pas trop, on essaie d'équilibrer quand même. Malheureusement, la situation s'est tendue en Angleterre, comme vous le savez, avec le variant indien, le variant Delta, ce qui veut dire que les artistes qui ne sont pas doublement vaccinés ne peuvent pas rentrer en Suisse sans faire de quarantaine. Donc on a déjà fait un certain nombre de changements la semaine passée. Il reste quelques artistes encore qui, eux, sont vaccinés. On attend de voir quelles sont les possibilités de les faire rentrer en Suisse. Mais surtout maintenant, la problématique intervient, le retour en Angleterre sans quarantaine. Vous imaginez que beaucoup de ces artistes anglais, quand Boris Johnson a annoncé les réouvertures, ont des tournées qui sont planifiées en Angleterre. Donc, ils ne peuvent pas se permettre de venir 2 jours à Montreux et de rester 10 jours en quarantaine quand ils reviennent dans le pays. Donc, on analyse la situation. Elle est tendue. Ça, c'est sûr, cette situation, elle est tendue. J'espère et j'imagine que les festivaliers comprennent bien cette situation. On a vraiment tout essayé avec les artistes, que ce soit Rag & Bone, Nubia Garcia ou Youssef Dayes. On a tout essayé vraiment pour trouver des solutions. Le seul qui est sûr et certain aujourd'hui, c'est Sam Fisher, parce que justement lui, il ne réside pas en Angleterre, même s'il est de nationalité anglaise, et ça nous facilite le travail. Mais on vous tiendra au courant au fur et à mesure de l'évolution du festival.
Donc il pourrait y avoir d'autres changements?
C'est possible, je ne l'exclus pas évidemment à cause de cette situation en Angleterre.
Pour faire tourner ce Montreux Jazz, il faut aussi des bénévoles. Est-ce que vous avez réussi à tous les trouver et quelles sont les contraintes pour eux?
Je profite pour les remercier de jouer ce jeu avec nous et de venir au festival. Je crois que beaucoup attendaient aussi de pouvoir reparticiper à la manifestation. Une des grandes différences, évidemment, pour le staff, c'est qu'il ne peut pas assister au concert comme il a l'habitude de le faire, puisque vous connaissez nos capacités qui sont extrêmement réduites. Donc quand on a 350 staff et puis qu'on a 520 places, c'est difficile de faire venir tous les staffs pour voir le concert. Par contre, on est en train de trouver des solutions pour qu'ils puissent assister au soundcheck, notamment des artistes l'après-midi, pour quand même vraiment participer à cette fête et puis voir les artistes pour lesquels ils sont venus travailler pendant cette édition.
Et pour que la manifestation se déroule avec le moins d'accrocs possible, Police Riviera sera aussi de la partie. Présentation de son cahier des charges avec le commandant Ruben Melikian.
Elle est moins mise à contribution cette année, mais la mission est tout aussi délicate parce qu'il s'agit quand même de calibrer un dispositif sécuritaire adapté aux conditions actuelles et puis au dimensionnement de la manifestation cette année. Donc c'était un petit peu compliqué. Mais nous serons sur le site tous les soirs avec notamment des policiers, mais pas que, pour veiller à la tranquillité publique surtout. On est assez confiant du fait que les choses se passent tout à fait bien dans l'enceinte de la manifestation. Par contre, on sera plus attentif aux abords, dans les parcs publics, parce que naturellement, c'est là aussi que les gens risquent de venir pour se rencontrer, écouter un peu de musique, manger quelque chose, ou plutôt pique-niquer, puisqu'il n'y a pas du tout de stand de nourriture ou de boisson sur les quais. Mais c'est bien là que nous devrons être attentifs pour accompagner ces gens, prévenir et puis veiller à ce que les habitants de Montreux puissent quand même bénéficier d'une certaine quiétude malgré le festival.
Au vu du nombre de personnes autorisées au sein du festival, aucun dispositif de mobilité et de stationnement ne sera mis en place, hormis un parking pour les deux roues. Les bus VMCV seront gratuits pour les détenteurs de billets de concert du jour même. L'ancien président de Saint-Gingolph, Werner Grange, démissionne de la municipalité de la commune. Sa démission a été acceptée par le département cantonal de la sécurité, des institutions et des sports. Le premier des vient ensuite de la liste citoyenne Gérald Dufresne est proclamé élu et prend sa place à l'exécutif de la commune. Suite à une assemblée générale extraordinaire, la section du PDC de Montéchouët a adopté ses statuts à plus de 2/3 de ses membres, 55% de participation, une modification qui comprend notamment un changement de nom. Le PDC Montéchouët s'appellera donc désormais le Centre Montéchouët. Depuis 6 ans, l'opération Boule à zéro distribue aux enfants patients de l'hôpital du Valais des bandes dessinées de la série du même nom. Cette année, ce sont près de 1000 BD qui seront offertes par le skieur Ramon Zenhuizen aux jeunes patients. 600 iront au service de pédiatrie de Sion et 400 à Viège. La série Boule à zéro raconte le quotidien d'une petite fille atteinte d'une grave maladie et habituée aux hospitalisations. 2141 infractions se sont déroulées en ligne en 2020 dans le canton de Vaud. Cela représente 24% de l'ensemble des infractions pour lesquelles un mode opératoire numérique est possible, a communiqué ce matin le canton. À titre de comparaison, 3534 cambriolages ont été enregistrés durant la même année. La plupart des infractions de cybercriminalité sont commises dans le domaine économique. Le reste se répartit entre la cyberatteinte à la réputation et les pratiques déloyales, ainsi que les cyberdélits sexuel. Gare de Lausanne, c'est parti. La Confédération, les cantons de Vaud et de Genève, la ville de Lausanne et les CFF ont donné aujourd'hui le premier coup de pioche du chantier d'agrandissement de ce vaste hub de mobilité du 21e siècle. Des travaux devisés à 1,3 milliard de francs qui permettront de répondre au doublement de la fréquentation des trains et de la gare attendu à l'horizon 2030. Le nombre de personnes tuées et grièvement blessées dans les accidents de la route a augmenté en 2020, indique le Bureau suisse de prévention des accidents. Personnes âgées et enfants sont particulièrement menacées. 40 tués et 154 blessés graves de plus qu'en 2019 ont été recensés l'an dernier, annonce le BPA aujourd'hui dans le baromètre 2021 de la sécurité routière. Leur nombre total s'élève respectivement à 227 et 3793.
10 jours après la fin de la session d'été du Parlement fédéral, 2 référendums ont été lancés ce matin à Berne.
Contre 2 décisions, le soutien financier aux médias et l'abolition partielle du droit de timbre. Le droit de timbre est un impôt fédéral sur les transactions financières. Il rapporte bon an mal an 2,3 milliards de francs. La suppression votée par le Parlement concerne la taxe de 1% sur les capitaux. C'est 250 millions de rentrées fiscales annuelles. La gauche n'en veut pas. Elle dénonce un cadeau de plus aux plus riches. La municipale socialiste des finances de la ville de Lausanne, Florence Germain.
Cette réforme est particulièrement injuste parce que suite à la crise du corona, de nombreux secteurs économiques ont été très durement touchés et certains autres ont fait plutôt des bénéfices. Le secteur des finances et de la pharma a augmenté de 20% ses bénéfices en une année. Puis on fera un cadeau à ce secteur économique-là qui est vraiment le dernier à avoir besoin de ce soutien avec des cadeaux fiscaux.
En quoi est-ce que cette réforme pourrait influencer les finances d'une ville ?
Alors c'est un impôt qui tombe uniquement dans les caisses de la Confédération. Par contre, on sait ce qui se passe et on l'a vécu toutes ces dernières années. Lorsque les moyens viennent à manquer dans les caisses de la Confédération lance des programmes d'économie, elle coupe des subventions aux cantons, qui, eux, coupent des subventions aux communes. Et donc, nous, au bout de la chaîne, on ne peut plus couper des subventions à aucune entité publique. On est dans cette logique encore de cadeaux fiscaux à ceux qui en ont le moins besoin, ceux qui possèdent des capitaux énormes, qui ont fait des bénéfices pendant cette année de Covid. Et c'est complètement incompréhensible, j'ai presque envie de dire inique.
Des propos recueillis par notre correspondant au Palais fédéral, Serge Jubin. Comme pour contester le soutien aux médias, les opposants à la suppression partielle du droit de timbre ont 100 jours pour recueillir 50 000 signatures. Les exportations de matériel de guerre sont mieux surveillées, selon le CDF, le contrôle fédéral des finances. Certains points demeurent cependant ouverts, indique un rapport publié hier. La Confédération estime, elle, que les correctifs ont été apportés. À noter que ce dernier rapport du CDF fait suite à un audit réalisé en 2018. Dans ce document, le contrôle fédéral des finances estimait que la pratique d'interprétation du Conseil fédéral avait conduit ces 20 dernières années à une application de la loi plutôt favorable à l'économie. Il avait émis 3 recommandations. Aujourd'hui, une seule est complètement remplie. Elle concerne le nombre d'audits réalisés auprès des sociétés actives dans le transfert de matériel de guerre. Leur nombre a augmenté significativement depuis 2018, passant de 16 à 21 en un an. Une évolution saluée par le CDF. En outre, ces contrôles incluent désormais une analyse des risques. Nestlé Waters va mener une centaine de projets d'amélioration de la gestion des ressources en eau sur ses 48 sites au niveau mondial d'ici 2025. Quelques 120 millions de francs sont posés sur la table. Pour mémoire, la multinationale est très régulièrement épinglée pour ses impacts négatifs sur l'environnement. À l'étranger, le gouvernement russe a fait état aujourd'hui de 652 morts dues au Covid-19 en 24 heures. Il s'agit là du bilan quotidien le plus lourd depuis le début de la pandémie. Il est causé par l'essor du variant Delta. La deuxième ville de Russie, Saint-Pétersbourg, qui accueille vendredi un quart de finale de l'Euro de foot, a recensé 119 morts. Là aussi, un record, tandis que Moscou, épicentre de l'épidémie, en a comptabilisé 121. Au total, la Russie déplore 134 545 décès en tout, ce qui en fait le pays européen le plus endeuillé. La Cour constitutionnelle sud-africaine a condamné aujourd'hui l'ancien président Jacob Zuma à 15 mois de prison pour outrage à la justice après son refus de comparaître devant une commission anticorruption. La plus haute juridiction a rendu ce verdict à la majorité de ses membres, a précisé le juge Sisi Kampepe. Enfin, sachez que le maire écologiste de Grenoble, Éric Piolle, a officialisé aujourd'hui sa candidature à l'élection présidentielle française dans un entretien à France 3 Alpes et France Bleu Isère. Et on poursuit ce journal avec une page de sport. En football, l'équipe de Suisse a signé l'une des plus belles performances de son histoire. La troupe de Vladimir Petkovic l'a fait. Au bout du suspense, la Nati s'est imposée hier soir 8-7 après tir au but face à la France dans une rencontre complètement folle où les Helvètes ont ouvert le score grâce à Seferovic, mais le vent a ensuite tourné à Bucarest et les Bleus sont revenus dans la partie. Dans un premier temps, grâce à Benzema qui a égalisé puis marqué un doublé avant que Paul Pogba inscrive le 3-1 dans les 15 dernières minutes de la partie. La soirée prenait la tournure des précédents huitièmes de finale, mais la Nati n'a pas baissé les bras. Seferovic parvenait à réduire la marque en inscrivant un doublé avant que Gavranovic libère tout le pays dans le temps additionnel. Durant la séance de pénalty, Yann Sommer a été héroïque. Le portier helvétique a stoppé le tir au but qu'il fallait face à Kylian Mbappé, propulsant la Suisse en quart de finale de l'Euro. La réaction de Yann Sommer.
C'est incroyable. C'est incroyable. On a montré, putain, je peux presque pleurer, on a tout montré, on était déjà en bas au match, on revient avec une morale incroyable, et je peux plus rien dire, c'est dur.
Oui, vous le disiez Guillaume, il est fantastique ce Yann Sommer. L'équipe de Suisse a livré donc une véritable bataille hier soir dans la capitale roumaine, menée 3-1 dans les 15 dernières minutes de jeu. Les hommes de Vladimir Petkovic ont puisé dans des ressources insoupçonnées pour écrire l'histoire du football helvétique. Ne rien lâcher, c'était le mot d'ordre de l'attaquant de la Nati, Brel Embolo.
Ouais, mentalement c'est dur, mais le match dure 90 minutes, je crois que ça nous a un peu choqués. Après, comme j'ai dit, c'est l'équipe de France. Hein, y a beaucoup de qualité sur le terrain. Compliment à tout ce groupe. Quand je dis tout ce groupe, je l'ai déjà dit il y a une semaine. C'est pas simple. C'est pas simple d'attendre sa chance d'être là. Mais je l'ai toujours dit, on a travaillé pendant des années pour être ici aujourd'hui. On l'a mérité en tant que groupe et on va le savourer en tant que groupe.
Des propos recueillis par nos confrères de la RTS.
Et puis, hier soir, Yves, la rencontre entre la France et la Suisse a été un moment particulier pour l'ensemble du pays.
Oui, et peut-être même plus encore du côté de Saint-Gingolph. Le village frontière franco-suisse a vécu un match dans le match sur les bords du Léman. Supporters des Bleus et de la Nati ont savouré le spectacle proposé ensemble dans une ambiance électrique, mais toujours bon enfant. Ludovic Turin a vécu d'un peu plus près cette soirée complètement folle à Saint-Gingolph. Reportage.
On est avec deux supporters français. Est-ce que la Suisse quand même a une chance ce soir d'inquiéter les Français?
Je pense que oui. Je me méfie énormément de... plutôt de la France en fait, d'elle-même. Je pense qu'ils jouent un petit peu trop cool, après on verra. Et puis je pense que la Suisse est bien meilleure que la Hongrie. Donc quand je vois le match qu'ils ont fait contre la Hongrie, je pense que la Suisse a toutes ses chances. Pour moi, prono, c'est prolongation et victoire de la France.
Ah, s'ils perdent, c'est comme ça, c'est parce qu'ils sont champions du monde et qu'ils ont les épaules, enfin ils se sentent plus pissés quoi.
C'est la magie du football.
Bon, on est avec Max et Mauro, deux supporters helvétiques ce soir à Saint-Gingolf, ville franco-suisse. Bah, déjà un premier mot, quel pronostic, quelle crainte surtout face à cette équipe de France?
Alors aucune crainte parce que la France est favorite, donc mon pronostic c'est 1-0 pour la Suisse à la 90e minute.
Votre pronostic à vous, Mauro?
Alors moi la même chose, 1-0 pour la Suisse, à la 89e minute.
On est à mi-temps de ce France-Suisse avec un supporter français, maillot de la France, à Saint-Gingolf. Impressionné par cette équipe de Suisse? On s'attendait forcément à un match difficile côté français, mais là, d'être mené à la mi-temps, c'est pas forcément ce qui était prévu?
Impressionné non, parce que c'est un huitième de finale et s'ils sont là, c'est que c'est pas par hasard, donc on n'est pas forcément impressionné. Comme je disais tout à l'heure, on s'attendait à ce que ce soit un match difficile et la France n'est pas au rendez-vous tout simplement.
Situation de l'équipe de France. Non. Deux buts en 5 minutes.
Ben c'est normal.
Forcément, l'ambiance a monté d'un cran ici à Saint-Gingolf. Comment ça se passe pour vous?
Pour nous, très bien. Franchement, nous, très bien. On a deux étoiles. Et c'est ce que je leur disais. Je leur disais, on a un sélectionneur qui a été champion du monde, champion d'Europe, qui a deux étoiles. À mon avis, ils ont dû se faire remuer.
Supporter de l'équipe de Suisse, 3 partout, on arrive au bout de son réglementaire, on va bientôt avoir des prolongations. Quel match!
Ouais, le match est incroyable, la Suisse est bienvenue dans son match, dommage qu'il loupe ce pénalty en deuxième mi-temps, mais voilà, le match est bien.
Un mot sur l'ambiance, ici il y a un peu de tout, il y a des Français, il y a des Suisses, l'ambiance... Il y a des Français, c'est très mixte.
Pour tout le monde.
Et il y a une très très belle ambiance, très bon enfant, ouais. Le match est parfait, la soirée est belle.
Ouais. Ouais. Très belle d'ailleurs.
Messieurs, victoire de l'équipe de Suisse, qualification contre la France, quel sentiment?
C'est incroyable, on n'aurait jamais pu penser.
Quelle ambiance!
L'ambiance est incroyable ici, le match est incroyable, tout est incroyable, vive la Suisse!
On est avec deux supporters français, forcément la déception est grande. Est-ce que vous vous attendiez à une telle rencontre face à la Suisse?
Non, le résultat est mérité pour la Suisse.
Sortir en 8ème de finale, championne du monde en titre, il y a forcément une déception.
L'Euro s'arrête pour nous, ouais. C'est dur. On sera pour la Suisse du coup.
Merci beaucoup.
Que ce soit ou l'un ou l'autre, on sera toujours vainqueur parce qu'on est gingolais.
Oui, nous on a bien failli perdre Ludovic Turin d'un arrêt cardiaque. C'est donc bel et bien une soirée historique qui a été vécue du côté de Saint-Gingolf hier soir. On rappelle que ce reportage est à retrouver en podcast sur notre site radiochablais.ch. La Suisse poursuit donc son parcours dans cet Euro 2021. Elle retrouvera l'Espagne en quart de finale. Ce sera vendredi à Saint-Pétersbourg. Et pour la petite histoire, sachez que 16,3 millions de téléspectateurs se sont mis devant TF1 hier soir pour suivre cette rencontre.
En football, toujours l'histoire. victoire entre le FC Saint-Maurice et David Orlando a pris fin.
Léon Montezin était à la tête du club agonois depuis 8 ans. Durant cette presque décennie, la formation chablaisienne aura vécu ses plus belles années avec une promotion historique en 2e Ligue Inter. Un niveau jamais atteint auparavant par une équipe du FC Saint-Maurice. L'ancien joueur du FC Sion quitte donc son poste d'un commun accord avec le comité dans l'optique de vivre un nouveau défi. Reste que de ces 8 années passées sur le banc du FC Saint-Maurice, David Orlando conservera forcément des souvenirs.
De super souvenirs. J'ai vraiment eu, durant ces 7-8 années, des joueurs réceptifs, des bons gars. Moi, je suis quelqu'un, si je fais de longues saisons dans un club, la première raison, je suis pas à quitter le bateau pour une difficulté ou une autre. Et deuxièmement, plus je travaille avec mes joueurs, plus je les aime. Donc voilà, je suis un grand émotif. Donc voilà, au fil des années, des mois, je crée des liens. Et c'est pour ça qu'il y a un respect mutuel. Et puis voilà, j'ai envie de travailler avec eux. Donc c'est ça que je garde. J'ai des joueurs que j'ai côtoyés pendant 6 ans, 5 ans. Donc voilà, ça va me manquer, même si j'en serai en dehors. Fier d'avoir pu être le premier entraîneur à amener Saint-Maurice en 2e Ligue Inter et le premier entraîneur avec mon groupe à les avoir maintenus.
Tout dernier mot, David Orlando, vous êtes montaisan. Le FC Montais est promu en Première Ligue. Vous parliez de challenge tout à l'heure. Ça pourrait en être un, de prendre les rênes de votre club, du FC Montais, de la première équipe, et de découvrir en tant qu'entraîneur la Première Ligue.
Alors premièrement, je leur ai déjà passé le message, mais je profite pour féliciter tout le FC Montais. J'ai beaucoup d'amis là-bas, commencé par Cédric, l'entraîneur, Pascal, le coach, le président que je connais bien, Rulio, le directeur technique, et plein d'autres joueurs aussi. Donc félicitations, ils ont ramené Montais au niveau où l'équipe devait être. Club phare du Chablais, c'était pas normal que Montais joue dans la même ligue que Saint-Maurice, pas du tout normal, c'est ce que je leur disais toujours. Par rapport à ça, 2 ou 3 ans en arrière, on a risqué, nous, de monter en 2 inter et eux de descendre. Alors là, ça aurait été le sommet, mais bref, ils ont retrouvé leur place en première ligue, et tant mieux pour tout le Chablais, parce qu'on a besoin de ça. Oui, bien sûr, écoutez, Montais, c'est mon club de souche, je sors de là, pourquoi pas, une fois, si l'occasion se présente, ça c'est clair. Au jour d'aujourd'hui, la question se pose pas. L'équipe est promue. Elle est en très bonne main. Donc, voilà, ils vont continuer. Mais oui, Montais est toujours un club qui m'intéresse. Et puis, c'est un club que j'ai toujours plaisir à aller voir mes amis. Et puis, comme vous dites, c'est le club de mon enfance. Donc, peut-être une fois, pourquoi pas boucler la boucle et puis finir où tout a commencé.
Des propos recueillis par Julien Traxel. Pour succéder à David Orlando, les dirigeants du club chablaisien ont décidé de miser sur Jérôme Vaudan. Ce dernier était jusqu'ici en poste au sein de la structure de formation d'élite du football fribourgeois.
Retrouvez toute l'actualité en podcast et en vidéo sur radiochablais.ch. La météo avec Romande Énergie et ses solutions innovantes pour panneaux solaires, boilers et pompes à chaleur. Romande-énergie.ch.
Pour fêter la qualification de la Nati dans le sable sous le soleil avec bien évidemment des tongs et puis un short de bain, il faudra repasser, monsieur, dame, puisque aujourd'hui est prévu un très très mauvais temps avec le retour des orages et par extension de fortes averses. Prudence donc, cet après-midi, les températures seront assez faibles pour la saison, faut le dire. 20 degrés au maximum en pleine, 16 à 1000 mètres, 11 à 2000 mètres d'altitude. Demain, plutôt nuageux et frais à nouveau pour cette saison, malgré des éclaircies en pleine avec un risque d'averses éparses, probablement plus marqué sur les reliefs, et en seconde partie de journée un poil plus chaud et un poil moins humide qu'aujourd'hui. Il fera au maximum 21 degrés en pleine et 16 à 1000 mètres pour demain. Et la météo complète est à 6 jours sur notre site internet radiochablais.ch.